Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter RDIWA sur le 107.5 FM et puis j'ai le plaisir de vous proposer une interview en compagnie d'un des membres du groupe Les Doigts de l'Homme, Olivier Kiktef. Les Doigts de l'Homme qui seront en concert au Théâtre de Die le 1er février 2013 pour présenter leur nouveau concert qui inaugure une nouvelle tournée autour du nouvel album qui est sorti le 4 février 2013, Mambo Jumbo. Donc en compagnie de Olivier Kiktef, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes peut-être le leader du groupe, pourquoi est-ce que j'ai affaire à vous d'ailleurs?
Bah, je suis surtout le fondateur du groupe, mais j'aime pas beaucoup ce terme de leader parce que j'aime pas ce qu'on y met derrière. Moi, je suis surtout garant d'une espèce de démarche artistique qui est de pas entretenir un projet uniquement autour de la musique manouche, mais d'élargir un petit peu le répertoire, quoi. Il met les deux influences et tout ça. Donc moi, je suis surtout le garant de ça, quoi.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous note au Wood sur ce dernier album, alors.
Alors, je joue pas de Oud sur le dernier album, mais j'en joue sur la dernière tournée. J'ai enregistré un morceau Oud il y a deux albums en arrière, je pense. Donc, c'est pas vraiment une nouveauté, ça, au final. C'est un morceau qu'on a gardé sur la tournée actuelle, mais qui est en fait un ancien morceau. Hein.
Les Doigts de l'Homme, moi, ça m'a fait assez plaisir quand on nous a proposé de faire cette interview et puis surtout de vous voir faire ce lancement de saison dans la Drôme. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit historique du groupe?
Oui, on s'est formé en 2003, on a sorti le premier disque. On a beaucoup joué dans la rue au tout début. Donc ça, j'aime bien cette histoire-là parce qu'en fait, je trouve qu'elle respecte une progression. On a vraiment fait toutes les étapes, quoi. C'est-à-dire qu'on a joué dans la rue, on a joué dans des bars, on a joué dans des petites salles, sur les interplateaux des festivals. Enfin, on a vraiment fait toutes les étapes, quoi. Et puis, ça nous rappelle aussi que c'est un boulot de terrain, quoi. Il faut vraiment aller se montrer partout, faire entendre sa musique dans un maximum d'endroits et tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur ces 10 dernières années. Et puis, du coup, la formation a un petit peu changé. Et là, on vient d'intégrer un accordéoniste là, sur le dernier album. Donc on est maintenant 3 guitares, contrebasse, accordéon. L'accordéon qui nous ouvre beaucoup de possibilités parce que nous, on était vraiment dans les cordes. Donc au final, des sons assez secs. Hein, la guitare manouche, il n'y a pas de valeur longue. Tout ça. L'accordéon, ça donne beaucoup d'air à l'ensemble. Et ça nous permet des choses un peu plus aérées. Même sur les guitares, donc c'est là, c'en est un peu là. On est sur ce quintet là qui nous fait du bien.
Alors justement, si on voulait parler un peu d'évolution, moi, si je me base uniquement sur la musique, tu me diras si c'est bon ou pas. Mais vous êtes parti sur des bases donc manouche. Évidemment, on pense aux grands noms qui font bien tourner cette musique là ici en France. Et donc évidemment Django Reinhardt et pourquoi pas Birelli Lagrène. Voilà. Mais en même temps, il y avait un côté délirant. Alors déjà dans les titres, mais aussi dans les titres de chacune des chansons. Et puis jusqu'à cet album où vous êtes mis à chanter, là, on a bien compris qu'il y avait quand même un côté un peu rigolo, quoi, qu'on voulait faire rire aussi à travers cette musique, enfin de joyeux.
Oui, en fait, l'aspect, moi je pense qu'on fait de la musique comme on est, quoi. Donc après, c'est vrai que le jazz a une image un petit peu, puisque bon, on est quand même classé dans cette ligne là, le jazz a une image un peu terne au niveau du grand public, alors que je trouve que on fait vraiment de la musique comme on est, quoi. Nous cinq, on passe beaucoup de temps à s'amuser, quoi. Donc forcément, ça doit être présent dans la musique. Enfin, c'est très important, quoi. Ou alors, on catégorise les choses. Il y a notre vie où on s'amuse, on fait les andouilles et tout ça. Puis après, il y a la musique. Ça, c'est un truc sérieux qu'il faut vraiment pas toucher. Et tout ça. Bon, nous, on a décidé de faire se mélanger un petit peu tout ça. Il y a ça. Et puis, il y a aussi, c'est vrai, l'envie de pas rester figé dans un truc. Donc, c'est pour ça qu'il y a des chansons qui sont apparues à un moment donné. Il y a aussi des instruments qui sont inhabituels. habituel dans la musique manouche qui paraît aussi sur certains albums. Moi, je trouve ça important d'être constamment dans la recherche, quoi. C'est quand même un style de musique où t'as tendance à pas se renouveler énormément. On va rejouer les mêmes standards de tango, donc on va jouer des performances de solistes. Moi, je voulais vraiment avoir un projet de groupe, quoi, donc où on peut sentir des humains qui sont derrière, quoi.
Sur ce côté justement peut-être un peu plus sérieux qu'il y a sur Mambo Jumbo, parce que tu parlais tout à l'heure à l'instant de ce côté performance de soliste, alors c'est ce qui est un peu, c'est presque ce qui renouvelle ou qui dynamise ce style guitare manouche, c'est de se retrouver devant des solos qui sont complètement hallucinants, et c'est ce qui en fait son attrait presque. Justement puisque c'est des standards, mais quand tout doucement vous vous mettez à dériver sur des choses plus orchestrées, plus voilà, un peu plus sérieuse, qu'est-ce qui a fait ce déclenchement, enfin, c'est ça que je voudrais qu'on comprenne un peu.
Moi, j'aime beaucoup jouer des standards dans le cadre de Buff. Quand on rencontre des gens, je trouve que c'est un vocabulaire commun qui est vraiment, c'est vraiment un cadeau, parce que on est tous là avec ce vocabulaire commun. On peut se retrouver à jouer avec des gens qu'on connaît pas grâce à ce vocabulaire commun. Donc ça, je trouve ça vraiment essentiel de l'entretenir. C'est aussi un gros vivier en termes d'apprentissage. Je trouve que, enfin, nous, on n'arrêtera jamais de jouer les standards et de les travailler. Par contre, moi, je trouve, dans le cadre d'un projet artistique, pour moi, c'est complètement autre chose, quoi. Effectivement, les performances des solistes dans la musique manouche, moi j'ai peur qu'à terme ça finisse par s'adresser uniquement aux musiciens et plus aux autres, et ça, je trouve ça très dommage de se couper du monde en faisant, c'est vrai, en tant que musicien on a une oreille un petit peu éclairée sur la musique, éventuellement une oreille un peu analytique. Je pense que la plupart des gens ont pas nécessairement cette oreille là donc faut faire attention de pas franchir la limite, je pense, de se couper du monde, quoi. Il y a ça, et puis il y a aussi, en ce qui concerne les arrangements, c'est vrai qu'on y passe, on y met beaucoup d'attention, parce que je pense que c'est une musique aussi qui est son point fort, c'est justement de pouvoir être joué au coin de la rue, quoi. Et son point faible, c'est que il y a très peu de notions de travail, d'enveloppe artistique, quoi. Très souvent, on va se remettre sur le cadre d'un standard parce que c'est ce qui est le plus évident. En plus, c'est le truc sur lequel les gens vont reconnaître, quoi. Ils ont un point de repère puisqu'ils connaissent la mélodie de base, etc. Donc là, tout le monde est content. Il y a une espèce de truc où on sait où on est, tout ça. Moi, je sais que j'ai pas envie. Enfin, je me vois pas faire ça pendant 10 ans, puisque là, ça fait 10 ans. S'il n'y a pas quelque chose un petit peu plus pointu sur l'enveloppe, quoi. Bon, je pense que les manouches, leur boulot, c'est effectivement de transmettre une tradition, une culture qui est la leur, déjà. Nous, on n'est pas manouches, je pense qu'il faut savoir en tirer un avantage aussi, peut-être plus de liberté, puisqu'on n'a pas la communauté aussi derrière qui est là pour savoir si on protège un patrimoine. Nous, on n'est pas là pour ça.
Ouais, vous êtes presque en train de le fusionner avec d'autres choses, quoi.
Ben,
ouais.
Après, c'est quand même une musique qui est née de rencontres de plusieurs musiques, hein. Django lui-même, il a fusionné des influences. Je vois pas pourquoi on laisserait les choses comme elles étaient en 53 quand il est mort, quoi. Enfin, Django, s'il était toujours en vie, il jouerait de la guitare MIDI avec Pat Metheny ou avec je sais pas qui. Enfin, il jouerait sûrement très moderne. Donc je pense qu'il faut que cette musique-là continue de se confronter à d'autres musiques, d'autres oreilles, et puis qu'elle continue d'évoluer, hein.
Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que vous avez fait beaucoup trop de standards avant et que maintenant vous avez presque envie de respirer un peu de ce cadre, quoi.
Tout à fait ça, c'est surtout que je pense que le rôle du standard, pour moi, il est pas de finir sur des disques, enfin pas sur les miens en tout cas. Encore une fois, je trouve très important ces standards. Déjà, c'est eux qui ont popularisé le style et tout ça. Bon, je pense qu'ils ont été suffisamment joués. Après, c'est vrai qu'on peut en proposer. En plus, il y a très peu de réelles propositions sur les arrangements, même des standards. Quand on a fait 1910, c'était ça aussi le message, c'était de dire on rend hommage à Django, mais aussi on propose une vision, quoi. C'est-à-dire, on n'avait pas envie juste de rebalancer les standards comme un bœuf. On voulait vraiment que ça sente le travail, qu'il y ait une. C'est bon, les standards, on les connaît. Je pense que maintenant, il faut proposer autre chose autour. Donc, soit vraiment se donner du mal sur les arrangements autour de ces standards, ou soit proposer des compositions originales, ce qu'on essaye, nous, de faire à part sur 1910. Mais...
Alors, si tu y arrives, est-ce que tu pourrais prendre un peu de recul sur votre succès, parce que vous avez pas mal tourné, vous tournez toujours beaucoup. Est-ce que c'est uniquement dû à votre travail, au travail de la Mass Rock, au travail des tourneurs pour vous placer un maximum, ou est-ce que quand même vous êtes demandé, et donc comment expliquer cela ?
Pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de vague manouche. Bon, certains étaient déjà dans cette musique-là, donc très bien. D'autres ont profité un petit peu de cette vague-là. Et puis nous, on s'est retrouvés au milieu. En fait, moi, je me suis senti un petit peu, à un moment donné, justement, accusé de profiter de cette vague-là, un peu manouche, alors qu'en fait, c'était un style que j'aimais, que je respectais, que je travaillais. Sauf que, moi, ma démarche à moi, encore une fois, c'était d'apporter une vision artistique. Et je pense qu'au final, avec les années, c'est ce qui nous a préservé de la retombée de cette vague manouche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu des groupes manouches à se monter à tous les carrefours, on voulait du manouche partout, et puis à un moment donné, je crois que les gens, y compris les réseaux de programmation, en ont eu un peu marre de voir défiler des gens qui jouaient les mêmes morceaux tout le temps. Et puis nous, on était là un petit peu au milieu à proposer notre truc à nous, qui nous a pas valu que des hurrahs au début, hein, puisque justement il y a aussi toute une section gardien du temple qui aime pas tellement qu'on bouscule cette musique-là. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais disons que ça existe. Mais malgré tout, je pense que ça nous a préservé de justement là à l'heure où tous les groupes qui jouent des standards ont de plus en plus de mal à tourner. Nous, on arrive avec des compositions originales, avec une démarche qui est un petit peu particulière et tout ça. Et je pense que moi, je suis assez fier de ça parce qu'au final, ça n'a pas été une volonté de dire non, il faut pas faire comme les autres et tout ça. C'était simplement une envie qui était là à la base, puisque dès le premier album, de toute façon, c'était des compositions. Il y avait peut-être un standard dessus. Enfin, mais je pense que ça nous. Enfin, si je dois l'analyser, je pense que c'est ça qui nous permet de passer au travers, quoi. Il y a aussi qu'on apporte beaucoup d'attention à l'aspect scénique, c'est-à-dire quand on fait des concerts, on a fait des résidences autour du travail de l'éclairage, du son. Nous, nos techniciens, ils connaissent les morceaux aussi bien que nous. Enfin, je crois que c'est pas très très répandu dans le milieu du jazz. Notre éclairagiste, il connaît vraiment le moindre break, il sait quand est-ce qu'il va arriver. Enfin, donc ce travail-là aussi est assez particulier. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses qui nous différencient, qui font que les programmateurs de plus en plus préfèrent proposer à leur public un groupe qui fait ce travail-là qu'un groupe où il y a un super soliste, mais par contre le reste, on sait un petit peu déjà ce qu'on va aller voir, quoi.
Ouais. Bon, on va en parler un petit peu de ça. Ça fait plusieurs fois que tu cites ce terme de sens artistique, enfin de, comment t'as dit même,
d'enveloppe artistique.
Ouais, ou de défenseur d'une certaine démarche artistique. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler, par exemple, en expliquant comment vous avez bossé sur ce dernier album et puis sur la tournée qui est en route ?
Alors déjà, le dernier album, il est particulier parce que moi j'ai envie que cette histoire-là respecte chaque disque, en fait, respecte là où on en est en termes d'historique humain aussi. Mumbo Jumbo, il a été fait, c'est le premier album qui a été fait de façon complètement collective. Sur 1910, on avait abordé un peu cette démarche-là dans la mesure où tout le monde avait participé aux arrangements. Le groupe est né autour de mes morceaux à moi, mais moi j'ai jamais fermé évidemment la porte de la composition à qui que ce soit, mais on avait pris un petit peu une espèce d'habitude de fonctionnement comme ça. Sur 1910, moi j'ai vu de quoi chacun était capable en termes d'arrangement. Quand on est ressorti de là, moi j'ai dit on peut pas y revenir comme c'était avant.
Prenez-vous quoi et composez aussi.
Oui, c'est ça, exactement. Non, mais moi j'étais vraiment. Je me suis dit c'est difficile de monter un groupe parce que être un groupe, c'est pas juste être des gens qui jouent ensemble. En fait, il y a autre chose derrière. Il faut qu'il y ait des choses qui lient les musiciens entre eux aussi, quoi. Et ce truc-là, ça se pas, il n'y a qu'un truc qui le fabrique, c'est les années, les heures à jouer ensemble, etc. Le nombre de concerts, donc ça on l'a maintenant. Donc je trouvais que le moment était quand même assez bien choisi pour que tout le monde se mette à proposer des compositions. Et puis j'ai vraiment pas été déçu parce qu'il y a des choses vraiment, vraiment très belles qui sont sorties d'un petit peu partout. Et puis du coup, ça fait une espèce de langage commun qui est vraiment la résultante de la vision de chacun, quoi. C'est drôle parce qu'en fait, tout le monde a fini par se projeter sur ce projet-là en ayant l'impression d'absorber un peu une influence qui était la mienne au final, mais au final chacun l'a recraché d'une façon différente et le résultat, j'étais vraiment très très surpris. Je sais pas comment ce disque-là sera reçu, mais moi je suis très fier de l'avoir fait parce que je pense qu'on l'a fait beaucoup de sincérité. Chacun a mis ce qu'il avait de mieux à dire à ce moment précis. C'est aussi pour ça qu'il s'appelle Mumbo Jumbo, parce qu'à un moment donné, on s'est dit Mumbo Jumbo en anglais, c'est le charabia. On dit ça du vocabulaire du médecin, par exemple. Donc quand on parle dans un vocabulaire qui est pas compréhensible par tous. Et là, quand chacun s'est pointé avec ses compos, ça faisait une espèce de mélange de vocabulaire qui était assez déroutant, même pour nous au départ. Mais moi, j'ai l'impression qu'il en sort quelque chose de cohérent malgré tout.
Ben, je confirme que, enfin, en tout cas pour nous à la radio, ça nous a pas posé de problème, et je reviens à ce que je disais au début, on sent comme ça une espèce d'évolution vers quelque chose qui est à la fois plus sérieux, plus cadré, justement plus arrangé, enfin qui a plus de technique, et qu'on dévie comme ça un tout petit peu du jazz manouche en y restant quand même encore, et ben moi je trouve que c'est agréable, et puis l'apport de cet accordéon, bien sûr.
Ouais, non mais je sais pas s'il est plus sérieux, mais en tout cas, j'hésite toujours à utiliser le terme à parler de maturité et tout ça, parce que d'abord, je trouve ça assez prétentieux de le déclarer soi-même de son propre projet. Mais malgré tout, je pense que là, on est fort de pas mal. On a fait des expériences, des fois, certaines qui ont marché, certaines qui n'ont pas marché. Je parle pas du point de vue je parle pas en termes de vente de disques, hein, mais vraiment sur le rendu artistique. J'ai l'impression d'avoir essayé des choses, des fois, qui ont moins bien fonctionné. Je trouve qu'il faut être honnête dans ce qu'on fait. Enfin, quand on a envie d'aller dans une direction, on n'est pas là à se demander si les gens vont bien le recevoir ou quoi. Donc on a toujours fait les choses dans cet esprit-là. Et là, je pense que la manière dont on a construit le disque est beaucoup plus mature que ce qu'on a été capable de faire dans le passé. Donc je pense que ça peut donner aussi un aspect peut-être plus sérieux à l'ensemble. Même si après les concerts c'est encore autre chose, puisque cet amusement là qu'on aime bien entretenir, je pense, est toujours présent, même fortement présent sur les concerts.
Alors avant qu'on parle un petit peu de comment se passe la tournée qui est à venir, je vais te demander de nous choisir justement un titre de ce nouvel album Mumbo Jumbo, et puis que tu nous présentes un peu et pourquoi tu le choisis.
Je peux choisir Ayahuasca. Ayahuasca, qui est un morceau de Yannick Alcocer, le guitariste rythmique. Et je choisirais celui-là parce qu'en fait, un coup, il s'est posé avec ce morceau en disant voilà, moi j'ai une compo. Il l'a présenté comme un. C'est un peu étrange à raconter comme ça, mais comme un hommage au groupe. Alors moi, ça me faisait un peu bizarre parce que c'est un hommage à nous-mêmes, ça me paraissait un peu étrange. Et en fait, je pense que ce qu'il a voulu dire, c'est cette identité qui avait commencé à se dégager quand lui est rentré dans le groupe, puisqu'il n'est pas là depuis le départ. Il voulait faire un morceau qui racontait comment il l'a compris, justement. Et c'est vrai que j'étais assez étonné parce que je reconnaissais des choses que j'aurais pu faire moi à une époque. Enfin, en fait, il a absorbé plein de choses comme ça et puis les a recrachés dans ce morceau, et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est ce dont je parle un peu depuis le début, c'est-à-dire que à force d'être ensemble, on finit par vaguement se ressembler, quoi. Et je trouve que dans ce morceau là moi je me reconnais dedans, alors que je l'ai pas composé, quoi. Donc je trouve ça assez significatif de ce qui s'est passé dans le groupe, quoi.
Thank you.
Ayahuasca Les Doigts de l'Homme, pardon, sur l'album Mambo Jumbo. Et donc tu disais justement que ça te montrait un petit peu que les autres membres du groupe avaient relativement bien capté ton identité. Mais est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que ça fait en tant que, on le dit pas, hein, mais leader de départ qui avait presque amené à chaque fois chaque morceau, ça te fait quoi comme bénéfice là maintenant? Est-ce que tu peux te reposer un peu ou est-ce qu'au contraire ça te fait fulminer encore plus?
Si, c'est vrai qu'il faut bien reconnaître que moi j'ai porté pas mal à bout de bras pendant plusieurs années, donc c'est vrai que je suis assez content que tout le monde, pour ne parler que de l'aspect un peu effort logistique et tout, enfin avant, pour tirer 15 morceaux sur un album, moi il fallait que j'en compose 25, quoi. Donc c'était vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Ma vie personnelle a changé aussi, j'ai des enfants, je peux plus y consacrer le temps que j'y ai consacré au début du groupe. Donc d'un point de vue purement technique, je peux pas y mettre autant de temps et d'énergie que je l'ai fait à une époque. Mais surtout au-delà de ça, je pense que et c'est important maintenant que le projet appartienne à tout le monde. C'est pour ça que les histoires de leader et tout ça, moi je suis toujours un peu frileux là-dessus parce que j'aime pas trop la connotation un peu dictatoriale que ça prend des fois, qui n'existe pas chez nous, enfin vraiment pas quoi. Là c'est devenu vraiment un projet qui appartient à nous cinq. Enfin, je pense que la parole de chacun a autant de valeur, les idées de chacun sont autant prises en compte les unes que les autres. Si ça devait s'arrêter demain, c'est déjà une victoire, quoi.
Et sur la prise de risque, évidemment, on imagine se lancer dans des trucs un petit peu nouveaux. Tu dis, je ne sais pas comment cet album sera reçu parce qu'il a des directions un petit peu différentes de ce qui avait pu être fait avant. Et ben là, vous êtes tous concernés, du coup.
Exactement. Bon. Ouais, exactement. Oui, et puis moi, je le ressens. Hein. Enfin, tout d'un coup, tout le monde transpire pour cet album. C'est-à-dire que l'album va être lâché dans la nature. On sait comment ça se passe, quoi. Après, il nous appartient plus, quoi. Donc, il y a ceux qui vont aimer. Et puis là, c'est un des grands bonheurs de ce métier, c'est qu'on va pouvoir avoir cette espèce de reconnaissance directe et tout ça. À l'inverse, les gens qui n'aiment pas se priveront pas d'y aller. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte de ça, mais quel que soit l'artiste dont on parle, je connais peu d'artistes qui font les choses par-dessus la jambe, quoi. Tout le monde s'investit énormément, met beaucoup de sa personne dans le projet, et c'est des fois jeté un peu en pâture comme ça, donc on ne sait jamais ce qui va se passer. Mais en tout cas, cette sueur-là, tout le monde l'a actuellement, quoi, grâce au fait que ça a été fait de manière collective et qu'il y a un peu de chacun dans ce disque. Mais c'est vrai que je ne sais pas comment il va être reçu. Ce qui est sûr, c'est que s'il est bien reçu d'une façon générale, je pense qu'on aura négocié un sacré virage parce que ça veut dire que là, encore une fois, on a fait vraiment les choses honnêtement, avec aucun calcul commercial ou quoi que ce soit. Enfin, je pense que ça s'entend. De toute façon, il y a des choses qui sont vraiment hors cadre commercial, mais complètement. Et donc, si cet album est bien reçu, je pense qu'on peut considérer qu'on va commencer vraiment à pouvoir faire absolument ce qu'on veut à partir de là. Et ça, c'est important pour nous.
Alors, puisqu'on parle d'album et de bien reçu, est-ce que vous vendez bien?
Déjà, faut savoir que nous, on est dans une musique et j'allais dire confidentielle. Ouais, c'est un peu ça. Enfin, comme le jazz peut être confidentiel. Alors nous, on est reconnus dans un certain cadre, mais c'est quand même des musiques où ça vend pas des millions d'albums, quoi. Faut pas trop se leurrer. C'est des chiffres qui font pas forcément rêver. Je pense que dans cette branche-là, on fait partie de ceux qui vendent bien, ouais. Mais j'ai même pas de chiffres en tête.
Alors qu'est-ce que tu...
C'est bizarre à dire, mais ça m'intéresse pas. Enfin, je pose jamais la question, par exemple, de où on en est en termes de vente de disques. Je le demande jamais, quoi.
Bon, bah, tant mieux, pas de problème. Alors qu'est-ce que tu appelles être un album bien reçu? Comment vous allez savoir s'il est bien reçu?
Parce que je pense que en fait, ce fait attaché à la musique manouche, je le renierai jamais. Par contre, j'espère maintenant qu'on a réussi à proposer une esthétique qui est ni vraiment de la musique manouche, ni vraiment du jazz moderne, ni vraiment de la musique de l'Est, mais j'espère en fait que les gens vont arriver à y voir une espèce d'identité à part entière. Si ça se produisait, je pourrais dire que le disque a été bien reçu et bien compris, quoi. Il faudrait que j'arrive à trouver des exemples, mais il y a vraiment des artistes. Je pense à Higelin, alors dans un style très très différent. Quand Higelin sort un disque, c'est un disque d'Higelin, on se demande pas si c'est de la chanson, si c'est de rock, parce qu'il a fait des choses hyper différentes au gré de, je pense aussi de ses influences et de ce qu'il avait envie de dire à ce moment précis. Et on arrête à un moment donné de se demander quelle étiquette on allait mettre dessus, c'est Higelin. Moi, je serais vraiment très heureux qu'un jour, on parle des doigts de l'homme dans ces termes-là, parce que je pense que c'est ça qui est en train de se produire. On cherche ni à s'éloigner de la musique manouche, ni à y rester dedans. On se contente de faire les choses comme elles. On continue à écouter de la musique, donc on subit d'autres influences. Et tout ça, n'arrête pas d'être craché dans les morceaux, donc de donner une esthétique en évolution comme ça. Moi, j'aimerais vraiment un jour être... je pense que c'est en cours, mais que le projet soit reconnu pour être ça, quoi.
Pour terminer sur les ventes et les non-ventes, sur le téléchargement via Internet, dit donc illégal.
C'est pas bien, c'est sûr. Après, je sais très bien comment les choses fonctionnent. Quand on est comme ça impliqué autant de l'intérieur et qu'on a une vision aussi précise de ce que ça coûte de faire l'album en termes d'argent, puis en termes de personnel, enfin nous on y donne beaucoup de notre vie. Je veux dire, il y a pas mal d'intermittents qui mettent leur vie de famille un peu en l'air parce qu'ils sont soit enfermés à faire des morceaux, soit sur la route à courir dans tous les sens. Donc on y met des choses qui font que on n'a pas tellement envie de se faire dépouiller, quoi. Je pense que le fond du problème, il est moral, il est là, quoi. Moi j'ai entendu, il y a des jeunes à une sortie de concert qui m'ont fait des speeches sur la musique qui était gratuite, quoi. Non, mais la musique c'est gratuit, c'est à tout le monde. Et moi c'est vrai que j'ai du mal à entendre ça. J'ai vraiment du mal à entendre ça. Après, je suis pas dupe que c'est aussi un outil extraordinaire de diffusion. Je pense que les gens qui piratent, c'est aussi les gens qui diffusent finalement. Hein.
Et qui viennent au concert.
Mais par contre, le lendemain, il va être recopié par le voisin, etc. Alors je pense que ça emmerde surtout les gros. Pour les plus petits, je pense que ça leur rend pas mal de services, quoi. J'ai du mal à me positionner là-dessus, parce que dans l'absolu, je sais que c'est mal, mais...
C'est parce que vous, du coup, vous les doigts de l'homme, en tout cas, vous seriez peut-être entre les deux, entre cette possibilité de qu'on vous achète quand même correctement votre musique parce que vous faites un effort de composition, et on le rappelle, qui n'est pas du tout de la reprise de standard, et que d'un autre côté, c'est aussi ça qui a permis peut-être de vous faire connaître un plus grand public plus rapidement et voir que ça marche vite en concert.
Ouais, ouais, sûrement. C'est vrai qu'il faut être honnête, quoi. Nous, on s'est fait connaître dans des pays à des milliers de kilomètres de là. On est arrivé, on a vu qu'il y a des gens qui nous connaissaient. Je sais très bien que le disque, il n'est pas sorti en Australie, par exemple. Donc, je suis arrivé là-bas, on a fait une masterclass. Il y avait 30 personnes qui étaient là, qui connaissaient le projet, qui me parlaient de morceaux précis. Enfin, je sais très bien que c'est aussi par le téléchargement, légal ou illégal, que tout ça a pu se produire, quoi. Bon, après, je vais pas faire l'apologie du téléchargement illégal, ça c'est sûr, quoi. Je trouve ça un petit peu scandaleux, et c'est réellement c'est pas juste une histoire de... Moi, dans ma position à moi, c'est pas une histoire de se faire dépouiller d'un point de vue matériel, en fait. J'ai plus l'impression que c'est un manque de respect par rapport à l'investissement personnel qu'on a fait. Moi, c'est ça qui me touche le plus.
C'est que donc on considère quand même pouvoir s'acheter un croissant, mais on s'achète plus la musique.
Voilà. Ouais. Non, mais en plus, moi, je trouve dommage qu'on se libère de l'objet matériel, même dans le cadre du téléchargement légal. J'imagine que je commence à avoir un discours de vieux con sur les bords. Mais j'avais des vinyles quand j'étais gamin.
Bah oui, bah tiens.
Images énormes comme ça que j'adorais manipuler, tout ça. J'étais allé il y a pas longtemps faire des interventions dans des collèges.
Ouais.
J'ai demandé aux élèves de me citer des supports de la musique et ils m'ont répondu lecteur MP3, téléphone. Je me disais là, il y a un truc qui est en train de se passer quand même. on se libère complètement du support. Matériel, et voilà, moi je trouve dommage qu'on ait plus ce plaisir là, mais de la même manière que si un jour le livre informatique se développe, je trouve dommage de me dire que les gens ils vont pas manipuler les bouquins, tourner les pages, prêter à un pote comme ça, enfin voilà, je pense ça pour le disque aussi.
Justement, le vinyle est en train de revenir, est-ce que vous y avez pensé, ça, à apprécier en vinyle?
On en a fait un, en fait. On a l'a sorti 1910 en vinyle, tirage très limité, mais parce que bon, ça c'est vraiment un truc personnel de musicien, parce que moi c'est vrai que j'aime bien le vinyle, je trouve que c'est un joli objet, et ce qu'il représente maintenant est encore plus fort qu'à l'époque où il était vraiment omniprésent, parce que maintenant c'est devenu, bah, encore une fois, le support devient obsolète petit à petit, donc le vinyle c'est vraiment c'est le cliché du support du disque, quoi. c'est ce gros machin noir, enfin, qui c'est pas possible de trimballer des trucs comme ça, donc moi ça me faisait vraiment rire, je trouvais ça charmant, en plus de le sortir pour 1910 qui était l'hommage à Django, de le sortir en vinyle, voilà, donc je voulais le faire une fois dans ma vie.
Bon, bah écoute, moi je vais mettre aux côtés de tous ceux qui vont t'inscrire maintenant en faux, c'est pas grave si le vinyle c'est chiant à trimballer, n'empêche que c'est pour moi c'est le seul support aujourd'hui qui restitue fidèlement le son, ce que le CD n'a jamais fait, et que par ailleurs je peux acheter 1910 maintenant, et mon fils dans 30 ans, et ben, il pourra encore l'écouter, ce qui n'est pas le cas d'un CD. Voilà.
Et puis lui il aura les craquements avec, c'est ça qui est génial.
Ouais, les craquements, si je l'ai mal entretenu.
Faire comprendre ça à des enfants de 6e, ça a été quand même compliqué, quoi. De leur faire comprendre que ce bruit parasite là, nous on adore ça, c'est pas possible de leur expliquer ça. Mais ça va grandir avec, quoi.
Bon, on va terminer sur cette tournée, donc bah, probablement de ce nouvel album, mais tu disais qu'il y avait quand même quelques morceaux aussi d'avant, une tournée qui a commencé le 12 janvier à Vals-les-Bains, il me semble. Et puis maintenant, après, vous êtes en Belgique pendant un moment et vous arrivez chez nous dans la Drôme pour faire Valence le 31 janvier et puis Die le 1er février au Théâtre de Die. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu cette tournée rapidement ?
Bah là, je crois qu'on va quand même vers une année où il va y avoir beaucoup de dates. Donc là, on fait cette partie en Belgique parce qu'il y a les Django Follies là-bas. Donc c'est un festival autour de la musique de Django qui a lieu un petit peu partout, enfin principalement à Bruxelles, mais un petit peu partout en Belgique. Donc là, on va faire ça qui est un petit peu particulier, mais sinon, bah, je veux dire, on est reparti pour remonter les manches et puis remonter dans le camion et faire le tour de la France et d'ailleurs. Je pense que là, ça va être une grosse année parce qu'en fait, le disque n'est pas officiellement sorti. On a déjà une quarantaine de dates de signer jusqu'à fin juin, je crois. Donc, on peut présumer que l'année qui va venir va être très, très chargée. Mais on n'est jamais à l'abri de ça. C'est-à-dire, il y a très peu de gens qui peuvent se vanter de pouvoir faire un disque et savoir qu'il va se diffuser comme ça de lui-même, par des réseaux, etc. Nous, il faut encore qu'on aille sur le terrain. Et puis, on aime le faire. Hein, faut pas non plus se mentir. On ne s'est jamais économisé là-dessus, quoi. On fait beaucoup, beaucoup de dates. On va dans beaucoup, beaucoup d'endroits. En plus, moi, j'ai un plaisir particulier à aller en province, faut bien le dire, parce qu'il y a tout ce truc un petit peu très parisien, faut aller jouer. Alors, on fait une sortie au New Morning, etc., ce dont je suis très heureux, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de dates en province, et ça, je trouve ça très chouette, quoi.
Voilà. Ah, pour ceux qui auraient déjà vu Les Doigts de l'Homme avant, est-ce qu'il y a des nouveautés, justement, parce que tu parlais tout à l'heure de ce côté scénique qui était quand même très important aussi dans votre groupe. À quoi va-t-on s'attendre, juste comme ça, un petit peu, hein ?
J'ai pas encore énormément de recul là-dessus, parce qu'en fait, donc on a fait cette résidence à Vals-les-Bains qui s'est terminée par un concert le 12, qui s'est vraiment très bien passé, mais on a donc filmé le concert, et je viens juste là de remettre le nez dans les images, et ça m'a fait... Ça m'a fait bizarre parce que je suis pas encore habitué à la nouvelle esthétique. Mais le seul truc que je peux dire, c'est que je pense que c'est un joli spectacle. C'est-à-dire qu'il y a un vrai voyage entre le point A et le point B. Il se passe vraiment des milliards de choses. Il y a toutes sortes d'ambiances différentes. Ouais, je pense que c'est un spectacle assez joli. En plus, il y a eu vraiment des beaux efforts de fait de l'équipe technique sur l'aspect scénique. Et je trouve que les choix ont été faits, qui ont été faits fonctionnent. Ce dont il est difficile d'être sûr tant qu'on n'a pas soumis ça au public réellement. Donc là on ressort juste de là. Donc, mais je pense que c'est un beau spectacle, j'espère.
Bon, bah, on n'en saura pas plus sur cette esthétique. Donc très bien, c'est bien, c'est bien. Tu es très fort.
Non, je ne veux pas dévoiler en détail.
Bon, et ben alors on vous retrouve donc nous en ce qui nous concerne, mais enfin on peut citer quand même ces deux dates de la Drôme. Donc le 31 janvier, vous êtes à Valence à l'Auditorium de la Musique et de la Danse, et puis à Die le 1er février, et ça c'est au Théâtre de Die, et que je remercie maintenant Théâtre de Die, Festival Est-Ouest, puisque c'est grâce à eux qu'on a eu vos contacts.
Je les remercie aussi du coup.
Bah si tu veux, si tu veux. Est-ce que tu voudrais conclure
Puisqu'on est autour de ces histoires de musique manouche, on a fait ces interventions dont je parlais tout à l'heure, qu'on a fait dans les établissements scolaires, ça m'a aussi renvoyé tout cet aspect qu'il y a de la culture manouche, que malgré ces vagues de musique manouche, on a eu du mal toujours à approfondir, et je trouve assez intéressant pour tous ceux qui adhèrent à cette musique d'essayer de se pencher sur la culture qui est derrière, de toute cette communauté qui est quand même là, omniprésente, mais qu'on a du mal à côtoyer.
On persécute.
La musique manouche est une passerelle vraiment unique vers cette communauté-là, mais je trouve que s'y intéresser un peu, moi je serais content que ça serve aussi à ça. Quoi.
Ces interventions que vous faites dans des collèges, c'est à titre de groupe, ou enfin vous êtes invité, comment ça se passe?
Là, on l'a fait dans le cadre de la SMAC 07, donc qui implique plusieurs associations ardéchoises. C'est pas forcément quelque chose qui est amené à se reproduire très très souvent, mais là on en a fait deux journées d'affilée, et on n'a pas été tous présents sur les interventions. On était à chaque fois uniquement deux représentants, parce que c'est quand même assez compliqué. Moi je suis pas manouche, donc je suis pas supposé agiter ce drapeau là, mais on a fait le tour de dizaines de festivals manouches d'un peu partout dans le monde, et je me rends compte qu'en fait on peut ressortir de là sans avoir la moindre idée de ce que ça implique de vivre cette vie là quoi. Et je trouve ça dommage en fait, parce que tout le monde adhère, enfin il y a énormément de gens de plus en plus qui adhèrent à cette musique, mais peu de choses sont faites finalement pour créer une passerelle un peu durable, et notamment une passerelle qui permettrait aux communautés sédentaires et aux gens du voyage d'arriver un petit peu à se comprendre et à communiquer quoi.
Avis aux professeurs, hein, si vous avez envie d'inviter les Doigts de l'Homme pour parler un peu de culture manouche, vous pouvez
tout
le faire.
Fait.
Très bien, bon bah super. Évidemment, vous avez un site internet qui va être très facile à trouver. Il suffit donc de taper les Doigts de l'Homme sur le moteur de recherche qu'on a envie.
Ouais.
Sinon, on peut vous booker, vous faire tourner tout ça par le biais de la Mass Rock, donc qui est sans doute l'asso qui vous gère.
Oui, exactement. Qui est situé à côté de Tournon-sur-Rhône et qui s'occupe de nous depuis qu'on est arrivé dans la région. Ouais.
Et on peut le rappeler, vous êtes dans la région, et ça fait plaisir. Voilà, tu parlais de province, et ben oui, c'est bien de venir y vivre aussi. C'est pas, faut pas faire que y tourner.
c'est vrai. Et là, oui. Moi, j'arrivais de Bretagne. En fait, je suis tombé amoureux de l'Ardèche là. Et donc, ouais, je suis là. Là, je pense que j'arrive à vous voir dans la montagne d'en face là-bas.
Oui. Nous aussi.
Je vois les trois becs là de ma terrasse.
Olivier Kiktef, merci beaucoup d'avoir passé ce petit temps avec nous. Et puis, rendez-vous donc, en tout cas en ce qui nous concerne, le 1er février à Die.
Avec plaisir, j'y serai, c'est sûr.
Et un dernier morceau pour conclure. Allez, comme ça, on en met deux de ce nouvel album Mambo Jumbo.
Eh ben, envoyons Mambo Jumbo.
Merci à toi, à bientôt.
Merci beaucoup. We'll be right back.